Le journal Loïc Barrière. 100 ans jour pour jour après la pose de la première pierre de la Grande Mosquée de Paris, Emmanuel Macron s'est rendu dans l'édifice religieux bâti au cœur du quartier latin. Il a également déposé une gerbe à la mémoire des combattants musulmans morts pour la France. Avec la pose de la première pierre de la Grande Mosquée de Paris en 1922, l'islam est entré par la grande porte de la République. Déclaration de Shams Eddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée, qui a été décoré de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron. En Algérie, un journaliste condamné sort de prison car sa peine d'un an ferme est couverte par sa détention préventive. La question des charges dans les HLM est un vrai sujet politique sur lequel le gouvernement est attendu. Déclaration de Mathieu Monod sur Radio Orient, président du premier bailleur social de Seine-Saint-Denis. Il s'inquiète de la hausse des factures d'énergie après le 31 décembre. Enfin, le salon Beyrouth Livre s'ouvre au Liban et va durer jusqu'au 30 octobre. Le président Emmanuel Macron s'est rendu à la Grande Mosquée de Paris ce mercredi après-midi. Le chef de l'État est venu commémorer le 100e anniversaire de la pose de la première pierre de l'édifice religieux construit au cœur du quartier latin. C'était le 19 octobre 1922. Inaugurée 4 ans plus tard en 1926, la mosquée a été construite en hommage aux soldats musulmans morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. À cette occasion, le président de la République a déposé une gerbe en hommage aux combattants musulmans morts pour la France. Avant de prononcer un discours sur la place de l'islam de France, il a inauguré l'exposition 1922-2022 « Premier regard, première pierre » qui raconte l'aventure de la construction de ce lieu de culte. Dans quelles circonstances a été construite la Grande Mosquée de Paris ? Entretien avec son recteur, Shams Eddine Hafiz.
Elle n'a pas 100 ans aujourd'hui, la Grande Mosquée de Paris, c'est la pose de la première pierre. Il faut être précis pour que vos auditeurs comprennent l'histoire de la Grande Mosquée de Paris. Effectivement, il y a eu déjà plusieurs projets de réalisation d'une mosquée à Paris au cours du 19e siècle. C'était une question récurrente, il y a eu plusieurs tentatives. Parce que nous sommes dans un empire français qui est un empire colonial, où il y a de nombreux pays, notamment d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, qui sont colonisés par la France et qui, à ce moment-là, souhaitent donner une dimension, notamment à l'islam, qui est très présent. Donc on peut dire que la France, à ce moment-là, est un empire musulman. Et le mouvement d'accélération de ce projet s'est effectué avec la Première Guerre mondiale, puisque nous savons tous que à Verdun, ce qu'on a appelé la bataille du destin de la France, a vu de nombreux soldats de confession musulmane qui sont tombés en héros pendant cette Première Guerre mondiale. Et c'est à ce titre-là, juste après la fin de la guerre, que le projet de construction d'une mosquée à la mémoire des soldats de confession musulmane a été pratiquement concrétisé. Et à ce titre-là, la Société des Abou et le Sein de l'Islam, qui était l'association qui avait organisé pendant, notamment en 1917, le pèlerinage des musulmans du Maghreb vers les lieux saints de l'Islam, cette tâche avait été confiée à Sir Qutb ibn Rabbit, qui deviendra ultérieurement le premier recteur en 1926. C'est lui qui va être chargé de ce projet. Il va donc modifier les statuts de cette association, qui est une association loi 1901, qu'il va déposer à la Mahkama d'Alger, le tribunal religieux d'Alger, et le siège social de cette association, la Société des Abou et de Saint-Islam, s'effectuera à la Grande Mosquée d'Alger. Donc, ce projet a été mis en place pour permettre notamment à l'Assemblée nationale, en 1920, de voter une loi qui va allouer à la réalisation de la mosquée de Paris, à cette association, va lui allouer la somme de 500 000 francs qui vont permettre à l'association de pouvoir à la fois acquérir le terrain qui se trouve dans le quartier latin, en plein Paris 5e arrondissement. Et le projet va commencer donc à voir le jour. Et le 19 octobre 1922, Sir Abdou Benrabrit, entouré d'imams, vont effectuer la première tâche religieuse de cette réalisation. C'est grâce à une boussole, ils vont chercher la direction de la Mecque pour leur permettre de construire le mihrab qui va permettre à tous les musulmans qui entreront dans la salle de prière de la Grande Mosquée de Paris de se prosterner en direction de la Mecque. Ça, c'est le premier fait majeur, le premier fait religieux qui s'est tenu dans l'après-midi du 19 octobre 1922. Le deuxième événement important, c'est les autorités civiles et militaires qui accompagnent Sir Abdou Benrabrit à cette occasion, hein, sur, je dirais, le terrain de la Grande Mosquée de Paris. Il va y avoir des discours, et notamment le discours du maréchal Lyoté, qui montre que ce projet de la Grande Mosquée de Paris est le fruit de la reconnaissance à la fois de la France pour les musulmans morts pour la France, mais en même temps pour une religion digne des plus grands égards, qui est très important. Moi, je voudrais insister sur cet aspect parce que, si vous voulez, la conscience de la République va faire en sorte que nous allons choisir une situation physique du projet de la Grande Mosquée de Paris en plein quartier latin, juste à côté du Jardin des Plantes, pas très loin de Notre-Dame de Paris, dans le quartier, à l'époque, enfin, il est toujours ce quartier latin de l'intelligence, de la culture, de ce qu'est la fierté de la France en termes culturels. Et je rappelle simplement que le baron Haussmann vient de terminer ses grandes œuvres de rénovation et de restructuration de la ville de Paris. Il en fait la ville lumière, hein, on appellera dorénavant Paris la ville lumière, et pour accueillir la mosquée de Paris qui va être le symbole de l'islam des Lumières. Donc, et ce n'est que donc en juillet 1926 que la grande mosquée de Paris va être inaugurée, qui permettra à ce moment-là donc aux musulmans de venir prier dans cette mosquée.
Alors, il y a une exposition actuellement intitulée 1922-2022, premier regard, première pierre. Pourquoi c'est important de faire connaître aux nouvelles générations l'histoire de cette grande mosquée de Paris ?
D'abord, moi je pense que l'histoire de la mosquée de Paris est assez méconnue. Il y a eu beaucoup de spéculations, on a raconté énormément d'histoires. Donc je voudrais, à l'occasion du centenaire de la pose de la première pierre, d'abord parler de ce projet. Comment on a envisagé ce projet? Comment les architectes ont été choisis? Pourquoi l'architecte Mantou, qui est originaire d'Alger, qui est né à Alger, qui a fait ses études en Algérie, pourquoi on l'a choisi? Pourquoi lui-même, avec ses associés architectes, vont choisir cette architecture? Elle rappelle quoi? Elle rappelle qui? Donc tout ça est important et on a estimé qu'il était bien de faire une exposition. Nous avons très modestement, sans être historien, nous avons essayé d'agrémenter ce petit parcours où l'on voit d'abord la personnalité de Abdou Benrabrit, qui est fondamentale, hein, pour la réalisation de ce projet, le maréchal Diotté, le journaliste Labordari, qui va devenir, pendant cette année 1922, il va y avoir la création de l'Académie des sciences d'outre-mer, qui s'appelait à l'époque, je crois, l'Académie des sciences coloniales, et qui va être le premier président. Donc ces trois hommes ont joué un rôle important dans la réalisation de cette mosquée de Paris. Nous allons voir des copies de journaux officiels, les statuts de la société des Habous, et un certain nombre d'images de cette mosquée, comment elle a été construite, comment le Zellidj a été choisi, comment les artisans ont travaillé sur la réalisation, parce que la mosquée de Paris, 1922-1926, donc quatre années longues, importantes pour réaliser ce joyau architectural. Donc, au-delà de l'exposition, lundi 17, nous avons fait un colloque sur l'architecture de la Grande Mosquée de Paris. Il y avait des architectes, des professeurs d'université qui sont venus pour expliquer, je dirais, comment a été choisie cette architecture, qu'est-ce qu'elle représente par rapport aux mosquées du Maghreb, hein, du Maroc, d'Algérie, de la Tunisie, notamment la question du minaret. On a beaucoup parlé de ce minaret, comment il ressemblait, je dirais, à ces mosquées du Maghreb, comment également ce lien avec l'islam d'Europe, puisque l'architecte Mantou a eu très certainement un regard vers Cordoue, vers Séville, vers Grenade, où on va voir une architecture semblable à ces villes de l'Andalousie musulmane. Et donc, il est important, à mon avis, que les Français, et notamment les jeunes musulmans, puissent à la fois s'accaparer cette histoire, la connaissent mieux, et s'aperçoivent quand même que cette bienveillance des hommes dont j'ai parlé tout à l'heure a traversé toutes les décennies. Et franchement, je pense que c'est grâce à ce courage de ces hommes qui a donné cette très belle mosquée. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, le message, en tout état de cause, c'est un message d'apaisement et de réconciliation, parce qu'on voit aujourd'hui comment l'islam est perçu par un certain nombre de Français, notamment dans la classe politique. Et je pense que le message que nous devons aujourd'hui donner, c'est ce message d'apaisement et de réconciliation qui est un élan véritablement vers l'avenir et l'union pour toutes les nouvelles générations qui nous écoutent, qui nous regardent et qui, eux, sont en train de faire la France d'aujourd'hui. Donc il faut qu'ils sachent que la Grande Mosquée de Paris, à ce moment-là, que l'islam est entré en 1922 par la grande porte de la République.
Chemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, il a été décoré des insignes d'officier de la Légion d'honneur par le président Emmanuel Macron. Une délégation du Hamas est arrivée à Damas pour des discussions avec le président Bachar el-Assad, une première depuis que le mouvement palestinien a rompu ses relations avec le régime. C'était au début du soulèvement en Syrie en 2011. En Algérie, la condamnation de Mohamed Mouloudj, un journaliste du quotidien Liberté qui a cessé de paraître en avril dernier. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 en ferme, cette peine étant couverte par sa détention provisoire. Le tribunal a ordonné sa mise en liberté. Il était poursuivi pour appartenance à une organisation terroriste et diffusion de fausses informations. Le meurtre de la petite Lola dans le 19e arrondissement de Paris, évoqué en Conseil des ministres, la droite et l'extrême droite avaient dénoncé le fait que sa meurtrière, une Algérienne en situation irrégulière, n'ait pas été expulsée. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a reconnu que le gouvernement devait faire mieux sur les obligations à quitter le territoire. Saluant le courage des parents de Lola, Olivier Véran a ajouté que le moment n'était pas venu de faire un procès politique. L'invité de Pluriel ce mardi était Mathieu Monod, conseiller départemental de Seine-Saint-Denis, premier adjoint au maire de Pantin. Il est également président de Seine-Saint-Denis Habitat, premier bailleur social du département. Et il est inquiet face à l'explosion des factures d'énergie qui attendent les bailleurs sociaux à partir du 1er janvier. On l'écoute.
Je suis très inquiet. Très inquiet sur ce que peuvent représenter le poids des charges dans la vie quotidienne de nos concitoyens, notamment qui vivent dans des logements sociaux. Je vais vous donner quelques exemples chiffrés, notamment à Seine-Saint-Denis Habitat. On a un marché d'électricité qui tombe au 31 décembre 2022. Donc on est en train de relancer ce marché. Nous sortions d'un marché à 4,5 millions. Ce que nous dit aujourd'hui les premières remontées qu'on a en termes de prix, ce chiffre à autour de 27 millions d'euros. Donc, c'est énorme. Donc, l'équation est simple. Soit, effectivement, il y a un véritable bouclier tarifaire qui est mis, et je peux vous dire là aussi très tranquillement, on a sensibilisé Olivier Klein, le ministre en charge du logement, qui comprend et voit bien de quoi nous voulons parler. La difficulté, c'est lorsque nous rentrons dans des discussions un peu plus techniques avec certaines personnes en charge de ces sujets-là, je pense qu'ils n'ont jamais mis les pieds ni dans une résidence sociale, et que la maîtrise de ce qu'est le logement et ce que peut représenter le poids des charges dans la vie quotidienne des habitants n'est pas bien compris. Vous savez, on a fait quelques calculs avec les équipes de Seine-Saint-Denis Habitat pour voir sur une famille quel est son salaire, quel est le poids du loyer, APLisé ou non APLisé, et quel est le poids des charges là-dedans et ce qui lui reste pour vivre. Sur certains cas, de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, qui sont sur certains minima sociaux, le reste à vivre, si je devais appliquer aux charges la multiplication que je viens de vous donner des 4 millions aux 27 millions que représente l'évolution de ce marché, le reste à vivre pour ces habitants deviendrait négatif. Voilà, ça c'est la réalité des chiffres. Il y a de véritables inquiétudes. Là, l'équation est simple. C'est soit on met en difficulté ce que peuvent représenter des institutions comme les bailleurs sociaux, parce qu'à un moment donné, la facture, elle devra être payée, soit on met en difficulté les locataires du parc social, et pour moi, c'est impensable qu'on puisse faire reposer sur les personnes qui ont le plus besoin d'être accompagnées ce type de dépenses, soit l'État prend ses responsabilités. Effectivement, il y a un bouclier tarifaire qui est mis en œuvre, qui permet de protéger. Mais aujourd'hui, je ne connais pas les mécanismes qui pourraient être déployés. Sur certaines parties du calcul des charges, je ne peux pas vous répondre. Et y compris, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse donnée par certaines entreprises sur les marchés qui tombent en fin d'année. Donc il y a un vrai sujet politique sur lequel le gouvernement est attendu.
Mathieu Monod, conseiller départemental de Seine-Saint-Denis, premier adjoint au maire de Pantin, une émission que vous pouvez retrouver sur radioorient.com. Au Liban, début aujourd'hui du Salon du Livre francophone. Il s'appelle Beyrouth Livre. Plus de 110 auteurs de 18 nationalités sont présents au programme des tables rondes, des projections, des expositions, des ateliers d'écriture et des concerts. C'est également lors de ce salon que doivent être annoncés les finalistes du prix Goncourt. Beyrouth Livre se tiendra jusqu'au 30 octobre. Le 24 octobre à 11h15, chaque Libanais sera invité à lire un livre pendant 15 minutes. C'est ce mercredi soir à 20h30 à Villetaneuse, le spectacle théâtral Hakima, je me souviens, de Mohamed Kaki, une pièce jouée à l'auditorium de la médiathèque Annie Ernaux, une pièce liée à la mémoire de l'Algérie. Enfin, l'invité de Pluriel, ce mercredi à 19h et 23h, est Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris, membre du Parti communiste. Cette édition est terminée. Retrouvez-nous sur radioorient.com, Facebook, Instagram et Twitter. Merci de votre fidélité.